Chapitre 23. 9 novembre 2010.
Elle sait qu'il est là, qu'il l'a retrouvée. Elle sent sa présence. Elle sent qu'il arrive, qu'il monte les étages, qu'il s'approche d'elle comme une bête qui a flairé l'odeur de la proie qu'il n'a cessé de traquer. Elle sait qu'il finira par pousser la porte. Pour la première fois, elle n'a pas peur de lui. Elle s'en va. Quand il posera le pied dans cette pièce, elle sera déjà loin. Là où il ne pourra plus la tourmenter, ni dans cette vie, ni dans les suivantes. Marie-Roman s'endort, le portrait de sa fille entre les mains. Marie aurait aimé qu'Agnès revienne. Elle aurait aimé lui raconter qu'après avoir vécu terrée dans la réserve de la librairie, elle avait quitté Sallanches en 1990, pour s'installer à Talloire, dans une petite résidence, à quelques kilomètres du lac d'Annecy. C'est sa sœur qui lui avait trouvé l'appartement qu'elle avait mis à son nom de femme mariée, Jeanne Mons. Marie avait 61 ans et n'avait jamais baissé la garde. Pendant 9 ans, elle avait tenu sa terreur à distance, pensant chaque instant à sa fille. Vivait-elle en France? Avait-elle eu des enfants? Fait un beau mariage? Sa sœur avait demandé à un ami gendarme de faire des recherches sur Blanche, mais impossible de retrouver sa trace après la vente du cirque en 1970. Elle semblait ne pas exister. Ni décès inscrit à l'état civil, ni sécurité sociale, ni adresse postale, ni employeur. Le gendarme avait suggéré de diffuser un avis de recherche. Mais Marie s'y était formellement opposée. Ce type de démarche aurait risqué de mettre sa fille en danger si elle était parvenue à s'extraire des griffes du monstre. 9 années d'une vie presque normale, comme un exil, une trêve dans la douleur engendrée par la frayeur. À part pour faire les courses, elle ne sortait qu'accompagnée de Jeanne, jamais seule. Parfois, elles allaient se baigner dans le lac. Et pour Marie, ses jours de baignade avaient été les plus beaux de sa vie. Jusqu'à ce 3 octobre 1999, où, sans le savoir, elle avait croisé le chemin de Victor Socha sur un trottoir de Talloire. Ils s'étaient rencontrés à plusieurs reprises, 40 ans plus tôt. Comment aurait-elle pu reconnaître ce petit homme aux traits ingrats? Lui avait été attiré par sa démarche, un je ne sais quoi dans son port de tête, qui lui était familier. Il détestait les vieux, redoutait la vieillesse. Cependant, cette femme-là avait attiré son regard. Victor Socha était analphabète, mais anormalement physionomiste. Il avait un sens du détail et de l'orientation hors norme. Elle avait vieilli, mais pas changé. Même allure, même silhouette, même visage. Dans une autre vie, il se serait damné pour elle. Mais c'était une beauté intouchable, puisque mariée à un fou, un vrai. Jamais Socha n'avait connu homme plus violent que Soudkovski. Cette brute n'avait peur de rien. Et puis un jour, sa femme avait disparu. Dans le milieu du voyage, on avait pensé que Soudkovski l'avait tuée. Puis on avait appris qu'il la cherchait, depuis des décennies. La retrouver tournait à l'obsession, et il y avait une importante récompense à la clé pour celui qui lui apporterait des informations. Elle s'appelait Marie, Socha en était sûre. Elle s'appelait Marie, comme la Sainte Vierge que sa mère priait chaque soir à Varsovie. Alors il avait crié sans réfléchir, comme une supplique, mais pas dans sa direction, comme s'il appelait quelqu'un d'autre. « Marie !» Et elle s'était retournée, avant de repartir d'un pas rapide. Socha l'avait suivi à distance et avait enregistré mentalement son adresse, une résidence blanche de 4 étages, juste à côté d'une boulangerie à la façade jaune et d'un square avec un pin parasol d'au moins 10 mètres de haut. Il n'avait pas hésité. Il savait qu'en avertissant Soudkovski, il signait l'arrêt de mort de cette femme. Il n'avait pas ressenti la moindre pitié. Au contraire, elle n'avait jamais posé les yeux sur lui à l'époque, comme s'il était transparent. Il tenait désormais son sort entre ses mains. Le pire, c'est que Socha n'aurait jamais dû être à Talwar. La veille, un type d'Ourmat lui avait proposé 500 balles pour livrer une dizaine de bureaux sortis d'une école qui venait de fermer ses portes à l'auberge du Père Bise. « De la belle cam, 800 kilomètres aller-retour. On passera par Bâle. Le type qui devait venir avec moi est tombé malade. Tu me relayeras au volant. » De retour en Alsace, il avait fallu des semaines à Socha pour remonter jusqu'à Soudkovski, qui ne possédait pas de téléphone. Fin décembre, le patron d'une casse à Bron avait fini par transmettre l'information à Soudkovski en personne. Victor Socha le cherchait. C'était urgent. Soudkovski l'avait rappelé et il était allé vérifier les informations données. Il était 15h lorsqu'il s'était retrouvé devant chez elle. Pas la peine de forcer quoi que ce soit, ni de grimper par les balcons à la nuit tombée. Il suffisait de sonner. Pas de hutton pour vérifier. Marie avait ouvert comme une fleur. Il s'était passé plusieurs secondes de silence, le temps qu'il bloque la porte du pied et qu'elle peine à respirer. Livide, elle avait entrouvert la bouche, mais avait été incapable d'appeler à l'aide. En quittant l'appartement une demi-heure plus tard, il était sûr de l'avoir tuée. Au premier coup de couteau, elle avait fini par hurler en pensant à sa fille. Un hurlement désespéré avant de s'écrouler. C'était grâce à ce cri qu'une voisine avait appelé la police et qu'on l'avait secourue à temps. « Adieu, Yevgeny. Au fond, tu as toujours voulu ma peau, parce que je ne t'ai jamais aimé. » Avant de mourir, Marie se souvient de la voix de Blanche quand elle était dans le coma. « C'est moi, Blanche. Je l'ai dénoncé à la police. Je sais que c'est lui qui t'a fait ça. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai une amie. Je vais vivre chez elle. Nous sommes sauvés, maman. » Elle avait dit « maman ». Marie se souvient d'avoir entendu une autre voix, celle d'une autre femme qui accompagnait Blanche. « Je savais que ma fille était protégée par quelqu'un, mais je ne savais pas par qui. » Marie Roman est décédée quand Soudkovski pousse la porte de sa chambre à la résidence Tous les Soleils. Il est 4 heures du matin. Elle est inerte, la pièce d'identité de leur fille entre les mains. Il ne la récupère pas. Pourquoi faire? C'est une pièce à conviction. Maintenant, pense-t-il, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de respirer la peau d'Agnès et de partir.